Le procès pour le trafic de cocaïne à l'île des Pins. Les 11 prévenus ont été condamnés hier à des peines de 8 mois à 3 ans de prison. Alerter et protéger les populations de tout risque, c'est le but du dispositif FR Alerte mis en place par l'État et le gouvernement. Explication avec Anaïs Haït Mansour, la directrice de cabinet du haut-commissaire. Samedi, l'aéroclub calédonien fêtera ses 90 ans et il organise une fête de l'aéronautique à Magenta. En métropole, la prison de Vendin-le-Vieil a accueilli ses premiers détenus, des narcotrafiquants qui seront soumis au régime carcéral très strict. Le Qatar, candidat au JO d'été 2036, l'Émirat veut continuer de s'affirmer comme un acteur majeur du sport. Et puis une victoire française sur une étape du Tour de France très convoitée. Valentin Paré-Peintre a dominé le peloton et les difficiles pentes du Mont Ventoux cette nuit pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous débutons par l'actualité judiciaire avec des peines de 8 mois à 3 ans de prison prononcées par le tribunal correctionnel de Nouméa hier pour le trafic de cocaïne de l'île des Pins. L'an dernier, un pêcheur a retrouvé des ballots de drogue largués à la mer et il avait décidé, Nicolas Legrand, d'organiser un trafic entre l'île des Pins et le Grand Nouméa.
Oui, une audience exceptionnelle était donc organisée hier au tribunal de Nouméa pour un procès hors norme. Le délibéré est tombé vers 22h. Après 12 heures de procès, le tribunal a condamné les 11 protagonistes à des peines allant de 8 mois à 3 ans de prison, alors que le ministère public avait requis des condamnations de 8 mois à 6 ans d'emprisonnement. Les trois hommes considérés comme étant à la tête du réseau ont écopé de peines de 3 ans de prison et 2 complices à 2 ans et demi. Les 6 autres individus ont été condamnés à des peines plus faibles, parmi eux des complices moins impliqués ou encore un gros consommateur qui avait plus de 200 grammes de cocaïne chez lui à Ploum. La drogue dite de l'île des Pins avait en effet inondé le marché du Grand Nouméa car elle était vendue à vil prix, 8000 francs le gramme au début de l'affaire, alors que le prix sur ce marché illicite tourne autour de 20 à 25 000 francs le gramme. Preuve donc de l'amateurisme des prévenus, ce qui explique que les peines ont été plus clémentes que les réquisitions, selon Maître Barbara Brunard, avocate de 2 prévenus.
C'est vrai qu'on a eu des réquisitions qui ont été extrêmement lourdes, qui allaient jusqu'à 6 années d'emprisonnement qui avaient été requises par le ministère public. Et ce sont des réquisitions qui, pour nous, les avocats de la défense, ne correspondaient pas du tout ni aux personnalités des prévenus qui étaient à la barre, ni aux faits qui pouvaient leur être reprochés. On a affaire à des personnes qui finalement se sont lancées dans ce trafic de stupéfiants par opportunité, parce que les produits sont arrivés par la mer, comme vous le savez. Vous savez, sur l'île des Pins, c'est la première fois que des produits de nature cocaïne arrivent. Il n'y a jamais eu de circulation de drogue dure sur l'île des Pins. Et c'est vrai que on s'est retrouvé avec des personnes qui ont un petit peu voulu tirer profit de tout ça. Ils ont expliqué qu'ils étaient à ce moment-là dans une situation économique très difficile. L'économie de l'île des Pins est pour l'instant au plus bas et donc ils ont voulu essayer de récupérer un petit peu d'argent en vendant ces produits, mais sans véritablement connaître les pratiques du marché, les tarifs du marché.
Les pêcheurs de l'île des Pins avaient découvert la drogue en 2 temps pour une 50aine de kilos en tout. En quelques mois, ces trafiquants en herbe auront eu le temps de générer 11 millions de francs de profit. De l'argent qui a servi à acheter du matériel de pêche, de la nourriture, mais aussi à mener grand train en réservant des hôtels et en faisant appel à des prostituées. Tous les biens acquis grâce au trafic ou qui ont servi à celui-ci, dont une voiture et un bateau, ont été saisis.
D'autre part, Nicolas, un mineur de 17 ans a été déféré au parquet pour un vol avec armes. Les faits remontent au 5 février dernier à Dumbéa.
Oui, ce jour-là, vers midi et demi, l'auteur présumé avait menacé la caissière d'un magasin avec un pistolet pour se faire remettre une cartouche de cigarette. Le visage dissimulé derrière une casquette et un t-shirt, il lui avait alors dit « C'est un braquage, donne-moi une cartouche, sinon je tire ». L'enquête n'avait pas permis d'identifier l'individu jusqu'au 18 juin dernier, lorsque la caissière en question a repéré son agresseur dans un autre commerce de Nouméa. Il a été interpellé le 21 juillet après toutes les vérifications d'usage. Il a reconnu qu'il était bien l'auteur du vol et le revolver s'est avéré être une arme en plastique. Le parquet a donc reconnu les faits d'extorsion commis avec violence. Le juge des enfants a demandé son placement sous contrôle judiciaire en attendant son procès prévu en septembre.
Le Haut-Commissariat condamne fermement les actes de délinquance du week-end dernier, notamment l'agression d'un enfant lors d'un cambriolage à Farino lundi matin. Face à une recrudescence des faits d'actes délictueux, Jacques Billon, le haut-commissaire, a demandé à la gendarmerie et à la police d'augmenter la visibilité des forces de l'ordre sur le terrain et les dispositifs de sécurité pour améliorer la réactivité lors des interventions. C'est ce que nous a dit ce matin à 7h30 la directrice de cabinet du haut-commissaire, Anaïs Haït Mansour, qui était notre invitée du matin.
Le Haut-Commissariat condamne fermement les actes des délinquances. Nous, ce que nous observons, c'est qu'en effet, il y a eu une concentration de faits le week-end dernier. On a envie de rappeler 2 choses. La première, c'est qu'on est toujours 2500 policiers et gendarmes sur le territoire. Les effectifs sont constants et on est ultra mobilisés. Pour suivre le mot d'ordre du haut-commissaire, c'est être là où il faut, quand il le faut. On se déploie là où on a des sujets. Ça, c'est la première chose. Donc, on est présent et on est mobile. La deuxième chose, c'est que le haut-commissaire et l'État est présent aux côtés des maires. Hier, la commissaire déléguée de la province sud, Catherine Merckx, était en réunion publique à la fois sur les sujets de sécurité. Aujourd'hui, le commissaire délégué de la province nord, Gérard Péau, sera à Poya sur une réunion de sécurité avec la maire. Et jeudi, le haut-commissaire présidera le comité provincial de la prévention de la délinquance avec la présidente de la province sud. On est mobilisé, on accompagne et on est en nombre et mobile.
Et toujours lors de cette interview ce matin, Anaïs Saïd Mansour a aussi présenté le déploiement en Nouvelle-Calédonie du dispositif national FR Alerte, Nicolas.
Oui, bien alerté, bien protégé, c'est la philosophie de ce dispositif qui a été mis en place en métropole par la sécurité civile. Il est désormais déployé par l'État au service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Toutes les personnes possédant un téléphone portable recevront une alerte en cas de danger. Une technologie qui ne nécessite aucune installation d'application sur votre mobilis. Tous les téléphones sont donc concernés. Écoutez Anaïs Saïd Mansour.
Les dangers, c'est quoi ? Ce sont des catastrophes naturelles, inondations, cyclones. Ça peut être aussi des incidents industriels ou des événements en matière de sécurité et ordre public, des attaques terroristes. Ce dispositif permet d'envoyer un message avec des consignes à donner sur une zone géographique définie. Vous recevez ce message sur votre portable, que vous ayez du réseau ou pas, que vous ayez un portable étranger ou local. Quel que soit votre opérateur, vous recevrez ce message. Et ce n'est pas un texto, c'est vraiment un message qui s'affiche sur votre écran avec FR Alert et les consignes à donner. Quand vous recevez ce message-là, vous n'avez pas la sonnerie de votre texto habituel. Vous recevrez ce son un peu strident qui est volontaire afin que vraiment vous puissiez lire le message. Et le message reste affiché un certain nombre de temps avec les consignes. L'idée, c'est de renforcer notre dispositif d'alerte à la population. Tout le monde connaît les sirènes. Là, ça vient ajouter des éléments avec des consignes à donner.
Le dispositif FR Alerte qui a déjà fait ses preuves en métropole, mais pas que.
Le déploiement est venu étape par étape jusqu'au JO. Et au JO, il a été particulièrement utile pour donner des consignes quand on rentrait dans les zones réservées dans Paris. Et il a prouvé toute son efficacité également en Outre-mer, dans le cadre du cyclone Chido et Garance à Mayotte et à La Réunion, où il a permis en fait une réactivité. Parce que vous savez, quand on a une alerte cyclone ou tsunami, en général, il faut aller très très vite. On a en général quelques heures pour se préparer, le temps de voir arriver l'alerte. Nous, notre objectif, c'est de donner très très vite les consignes à la population, et notamment le grand retour d'expérience de Chido et de Garance, ça a été la réactivité aussi pour prévenir les personnes, et notamment à La Réunion, pour qu'ils puissent se confiner et attendre la fin des événements. Et je le rappelle, l'intérêt majeur de cet outil, c'est qu'il marche hors réseau. C'est-à-dire que si on a des problèmes de réseau, saturation de réseau, vous recevrez quand même l'alerte avec les consignes.
Un test du dispositif FR Alerte sera effectué demain à Lifou, où les téléphones portables vont donc sonner, et un autre sera fait à l'échelle du territoire d'ici la fin de l'année.
Et c'est une interview de la directrice du cabinet du haut-commissaire Anaïs Mansour qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 95% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les exactions, les violences urbaines et les incendies qui se multiplient ces dernières semaines sont des actes de délinquance politique. Ils ne sont que 5% à penser que ce n'est pas le cas. Voici notre question du jour au lendemain du forum qui s'est réuni à l'UNC. Pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie est suffisamment préparée au changement climatique ? Si vous pensez qu'elle est suffisamment préparée, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle ne l'est pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. En bref, cet accident de la route très tôt ce matin à Bouloux-Paris. Un jeune homme aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de terminer sa course dans une station-service à l'entrée sud de la commune. Plusieurs témoins ont d'abord cru à une nouvelle attaque à la voiture Bélier, mais les gendarmes ont expliqué très rapidement qu'il s'agissait bien d'un accident. Le jeune homme était alcoolisé au moment des faits. Il est actuellement entendu par les forces de l'ordre dans le cadre de sa garde à vue. Et puis les cours ont repris ce matin au collège de Canala après l'agression d'un professeur par un élève de 4e lundi après-midi. Le personnel enseignant a décidé d'un mouvement de grève hier dans l'établissement. L'enseignant aurait surpris le collégien en train de vapoter avant de recevoir un coup de poing. Après une réunion avec le personnel et les représentants des coutumiers, la grève est suspendue. Les cours ont repris aujourd'hui. Une enquête est toutefois en cours et l'élève sera convoqué en conseil de discipline. Il est 11h40, une première pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie dans un instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Votre 4x4 demande de l'aventure ? Chez Calais Pneus, choisissez BF Goodrich, la référence des pneus 4x4 tout-terrain en Calédonie. Jusqu'au 23 août, moins 20% sur tous les pneus 4x4 BF Goodrich. Changez, roulez, explorez avec Calais Pneus PK4 et Gonnet. Visitez notre page Facebook.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité politique et l'absence d'accord conduirait au chaos, puis de nouveau à la violence. C'est la mise en garde de Manuel Valls après les critiques formulées par l'Union calédonienne à l'encontre de l'accord de Bougival, Elisabeth Noir.
Le ministre des Outre-mer qui est actuellement en Polynésie française et il a bien sûr été interrogé sur la situation en Nouvelle-Calédonie après les prises de position critiques sur l'accord signé à Bougival de la part de la commission exécutive de l'Union calédonienne. Manuel Valls a affirmé en réponse aux critiques de l'UC que l'accord prévoit la possibilité de transférer 4 compétences régaliennes, la justice, la sécurité, la défense et la monnaie. J'ai lu ici ou là que certains disaient que c'était impossible, que le verrou rendait impossible ce transfert. Je ne le crois pas, a déclaré le ministre. Ce que nous avons fait tous ensemble, c'est d'éviter de nouveau les référendums couperets qui jettent les Calédoniens les uns contre les autres. Manuel Valls a également dressé un tableau très sombre de la conjoncture économique de la Nouvelle-Calédonie et il a appelé à la responsabilité des partis et à la patience. Il faut se laisser encore quelques jours, quelques semaines pour que chacun prenne pleinement conscience des avancées de Bougival, a-t-il déclaré. Il est impossible que cet accord ne soit pas mis en œuvre parce que nous sauterions vraiment dans l'inconnu, a prévenu Manuel Valls. Et l'absence d'accord conduirait selon lui au chaos et de nouveau à la violence. Et le futur de la Nouvelle-Calédonie serait, a-t-il dit, particulièrement sombre.
Une opportunité de se forger une expérience à l'international pour des missions de solidarité allant de 8 à 18 mois. Le programme France Volontaire ouvre dès à présent une campagne de recrutement pour plusieurs postes à pourvoir au Vanuatu, à Fidji ou encore au Cambodge. Marjorie Botella est responsable de l'antenne France Volontaire en Nouvelle-Calédonie.
France Volontaire, donc, c'est une plateforme de volontariat international de Nouvelle-Calédonie. On interagit beaucoup avec le Pacifique, l'Asie-Pacifique de manière globale. Sur cette campagne qui vient de s'ouvrir, on a plusieurs pays d'affectation. On a le Vanuatu, une mission qui aura lieu à Fidji et une autre qui aura lieu au Cambodge. Sur chaque mission, finalement, les profils sont un peu différents. Un projet qui est quand même mis en place, le projet Résilico, qui vise du coup à renforcer la résilience des communautés rurales en fait, en Nouvelle-Calédonie et à la fois au Vanuatu. On porte plusieurs missions qui auront lieu au Vanuatu. Une mission qui est plutôt chargée d'études sur les centres sociaux, une autre qui est plutôt sur l'appui agricole et une autre mission qui est plutôt sur l'agronomie. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 août et à partir de là, on triera les profils et on sélectionnera nos candidats.
Et tous les jeunes qui veulent faire acte de candidature trouveront les informations utiles sur la page Facebook France Volontaire Pacifique. Il y a aussi un numéro de téléphone mis en place, le 25 10 65, le 25 10 65. Les passionnés d'aviation ont un rendez-vous important ce week-end. L'aéroclub calédonien Henri Martinet organisera effectivement à l'occasion de son 90e anniversaire, la fête de l'aéronautique, Mickaël Juneski.
Le public pourra découvrir les locaux du club à l'aérodrome de Magenta, ainsi qu'une exposition sur place sur l'histoire de l'aviation en Calédonie, mais aussi un village avec les professionnels de l'aéronautique, la compagnie Air Calin, Air Océania, l'armée de l'air, la gendarmerie, la police, les pompiers, l'école de pilotage, l'école de drone, sans oublier un pôle loisirs dédié à l'aéromodélisme ou au parachutisme. Et les visiteurs pourront surtout effectuer des vols découvertes en avion ou en ULM. Tony Lobreau est le vice-président de l'aéroclub calédonien.
On a voulu faire une fête de l'aéronautique avec la présence notamment de compagnies aériennes comme Air Calin, bien sûr. Air Océania sera présent avec leur nouvel avion. On aura l'armée de l'air et la marine nationale qui seront présents avec des engins en expo statique sur le parking. Donc, il y aura des animations, il y aura les vols découvertes, bien sûr, avec un avion de l'aéroclub et trois ULM. Dans le hangar, il y aura des stands avec des professionnels, des organismes de formation et des organismes de loisirs. Et bien sûr, il y aura le stand de l'aéroclub calédonien avec son école de pilotage.
Ce sera un grand moment pour l'aéroclub calédonien Henri Martinet, du nom de ce pionnier de l'aviation sur le territoire, celui qu'on appelait le pharmacien volant, arrivé en Calédonie en 1934, notamment l'un des premiers pilotes à avoir réalisé le vol Nouméa à Paris avec Paul Klein en mars 1939 à bord du monomoteur Caudron Aiglon. Les passionnés veulent continuer d'écrire l'histoire du ciel calédonien. On retrouve Tony Lobreau.
C'est ce qu'on a voulu faire d'une certaine manière, c'était de dire que l'aéroclub calédonien existe encore. Depuis 90 ans, la passion de voler, c'est notre petit slogan et on est fiers d'être encore présents après 90 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est se tourner vers l'avenir. Parler de notre école de pilotage, parce que c'est quand même le noyau de l'aéroclub calédonien, c'est une activité très importante pour nous. Donc on s'adresse aux jeunes qui envisagent une carrière dans l'aéronautique. On s'adresse aussi aux moins jeunes qui veulent voler, ne serait-ce que pour le loisir ou dans d'autres métiers dans l'aéronautique. Pour la journée de samedi, notre marraine, c'est Nadia Brésil, qui est passée par l'aéroclub calédonien justement, qui a fait sa première formation donc pilote privé dans notre école de pilotage à l'aéroclub et elle a poursuivi ensuite ses études pour être finalement aujourd'hui officier pilote de ligne sur Airbus chez Air Calin.
Les 90 ans de l'aéroclub calédonien Henri Martinet et la fête de l'aéronautique, ce sera samedi prochain de 8h à 17h à l'aérodrome de Magenta à Nouméa.
La suite de ce journal dans un petit instant après une nouvelle pause et nous évoquerons l'actualité en métropole.
RRB 11h 13h Infomag Jean-François Bodin.
Ne ratez pas la 36e foire agricole et artisanale de Thiot les 26 et 27 juillet prochains. Faites le plein de provisions avec les fruits et légumes de la région, sans oublier les fruits de mer et l'artisanat local. Découvrez le village culturel, des groupes de musique et de danse, des balades dans la mangrove en kayak, des visites historiques de Thiot Mission, les jeux équestres, balades à cheval, démonstration de fun car le samedi, ainsi que la démonstration de fours traditionnels. Pendant deux jours, rencontrez les habitants de la commune. Un événement organisé par le comité d'animation de Thiot.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
La prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais a accueilli ses premiers détenus. L'établissement a été rénové pour durcir les conditions de détention des narcotrafiquants les plus dangereux. À terme, cet établissement sécurisé pourra accueillir une centaine de détenus. Les 17 premiers d'entre eux sont donc arrivés la nuit dernière pour nous et leur transfert s'est déroulé sous très haute sécurité. David Lacroix est délégué FO pénitentiaire.
Nous venons d'accueillir les 17 premiers détenus de la lutte contre le crime organisé. Ces détenus arrivent de la région parisienne. Vous le savez, c'est les 100 plus gros narcotrafiquants. On connaît leur force de frappe et leur capacité à pouvoir s'organiser à l'extérieur. Donc rien n'est laissé au hasard.
L'objectif de cette prison sécurisée est d'éviter que les narcotrafiquants continuent de gérer leur trafic depuis leur cellule. Ils vont donc connaître des conditions de détention très différentes de celles qu'ils ont connues jusqu'à présent. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui est à l'origine de ce projet.
Ils pouvaient téléphoner de façon illimitée avec un téléphone fixe. C'est désormais fini. C'est désormais deux fois deux heures par semaine, point. Ils pourront bien sûr avoir contact avec des personnes qui viennent les visiter, mais derrière un hygiaphone, c'est-à-dire avec une vitre qui les empêchera de se passer des objets Ils seront extrêmement surveillés dans leur promenade. Il faut savoir que pour 100 détenus, il y a 20 agents pénitentiaires, d'habitude. Là, pour 100 détenus, il y aura 250 agents pénitentiaires. Donc, chaque fois qu'il y aura un détenu qui sera dans la prison, il sera accompagné par 3 agents. Impossible de les corrompre, impossible de faire passer quelque chose de la main à la main. Et surtout, on vérifiera sans cesse s'il y a des drones, des téléphones, avec des moyens technologiques que je ne vais pas détailler, mais qui sont très importants.
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, invité du 20h de TF1. La métropole confrontée à une hausse des arrêts maladie. En 5 ans, ils sont passés de 4,6% à 5,8% dans le secteur privé. Une dérive que souhaite endiguer le Premier ministre qui veut mettre en place un véritable plan de bataille avec un maître mot, responsabiliser. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Dès 2026, les règles pourraient changer pour des millions de salariés. Le gouvernement envisage de modifier le délai de carence, cette période non indemnisée au début d'un arrêt maladie. Objectif, freiner la hausse vertigineuse des indemnités versées, plus de 20 milliards d'euros en 2023. Une journée de carence obligatoire, des arrêts plus courts et mieux contrôlés, voire le transfert du financement des premières journées à l'employeur. Ces pistes proposées par l'assurance maladie sont à l'étude dans le cadre du prochain budget de la Sécu. Dans la fonction publique, la réforme a déjà été entamée. Le remboursement à 90% des arrêts au lieu de 100% est acté dans le budget 2025, malgré une forte mobilisation syndicale. Mais le passage à 3 jours de carence, lui, a été abandonné. Reste que François Bayrou affiche sa fermeté. Il veut mettre fin aux arrêts jugés injustifiés. Une volonté de rigueur budgétaire, mais aussi un test politique, tant le terrain est inflammable.
L'actualité à l'étranger, entre sport et diplomatie, le Qatar où se déroulent les négociations entre Israël et le Hamas notamment, et qui joue souvent les médiateurs dans les conflits, est candidat pour l'organisation des JO d'été 2036. C'est déjà le Qatar qui avait organisé la Coupe du Monde de football en 2022, on s'en souvient. Et cette candidature pour les JO est tout sauf une surprise, Cyril de la Morinerie.
Dans un communiqué, l'Émirat met en avant, je cite, sa remarquable expérience en matière d'accueil d'événements sportifs. Il est vrai qu'en quelques années, Doha est devenue une capitale mondiale du sport. Grand Prix de Formule 1, championnat du monde de natation, de handball, compétition de tennis et surtout l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Le riche Etagazi rêve désormais des Jeux, car le sport est un outil d'influence majeur, confirme Vincent Chaudel, économiste du sport.
On a pu voir qu'avec la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi le rachat du PSG, le tourisme s'est développé x3, x4. Donc oui, les événements sportifs sont des éléments très importants dans le développement de la notoriété, mais aussi d'un relais de croissance pour le pays.
Le Qatar fera face à une grosse concurrence. L'Inde, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie et la Hongrie notamment se sont également positionnés pour accueillir les Jeux Olympiques de 2036. Mais le Qatar est déterminé, d'autant que son grand voisin et rival, l'Arabie Saoudite, a été choisie pour organiser la Coupe du Monde de football en 2034.
À 11h53, la dernière pause de journal avant de voir l'actualité sportive avec les résultats, cette fois-ci notamment sur le Tour de France et une victoire française en haut du Mont Ventoux. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Du 23 au 27 juillet, c'est les jours complètement waouh dans vos magasins Auchan Auteuil et Auchan Kéferi. Avec votre carte de fidélité, profitez chaque jour de 5% de cagnottage supplémentaire sur un rayon différent ou sur nos produits Auchan. 5 jours, 5% de cagnottage en plus, waouh, ça vaut vraiment le coup. Détails de l'offre à retrouver sur les pages Facebook des magasins Auchan, le bon moins cher.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on salue tout d'abord notre partenaire.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Le Tour de France et la première victoire tricolore cette nuit sur la Grande Boucle. C'était la 16e étape entre Montpellier et le Mont Ventoux, Léo Fichou.
Et oui, Valentin Paré-Peintre s'est imposé au sommet du Mont Ventoux, col classé hors catégorie. Dans la bonne échappée, il a terminé les 171 km au sprint et a devancé dans les derniers mètres l'Irlandais Ben Healy. Le Français était aux anges à l'arrivée.
Je pensais vraiment que Pogacar avait envie de gagner l'étape et qu'il allait vraiment essayer de cadenasser la course. Donc j'y croyais pas trop. Je me suis dit, s'il y a un gros groupe, pourquoi pas être dedans? On sait jamais. C'est sûr que que je réalise pas. C'est une victoire sur le tour, c'est extraordinaire, mais je pense qu'au Mont Ventoux, c'est encore quelque chose de différent, et pour l'instant, j'ai du mal à réaliser. Dans le final, Benili était vraiment très fort sur ses attaques, et je me disais, allez, c'est une victoire au Ventoux, tu peux pas lâcher, et même dans les 100 derniers mètres pour le doubler, j'ai vraiment eu du mal, mais je me suis dit, non, tu dois pas lâcher, c'est une victoire sur le Ventoux au Tour de France, c'est incroyable, tu dois le faire.
Et au classement général, Tadej Pogacar possède toujours le maillot jaune de leader. Il devance Jonas Vingegaard de plus de 4 minutes. Le premier français, Kevin Vauclin, est désormais 6e à plus de 13 minutes du leader. Ce soir, la 17e étape emmènera les coureurs de Bolène à Valence, 160 km. Une étape de place sur les routes du Vaucluse et de la Drôme promise aux sprinteurs. Attention tout de même aux bordures si le vent se met à souffler. Départ prévu à 22h50, heure de Nouméa.
Et puis un mot de football, et l'Angleterre est la première équipe qualifiée pour la finale de l'Euro féminin, des Anglaises miraculées.
Oui, puisqu'elles étaient menées 1-0 jusque dans les arrêts de jeu. Elles ont d'abord égalisé à la 96e minute avant de s'imposer en toute fin de prolongation. L'Angleterre défendra donc son titre, soit face à l'Allemagne, soit face à l'Espagne. Les deux équipes qui s'affrontent demain matin en demi-finale.
Le sport sur le territoire est cette bonne nouvelle pour l'athlétisme calédonien. Aurore Manoufekai vient d'être sélectionnée en équipe de France pour participer au championnat d'Europe des moins de 20 ans. La lanceuse de poids, championne de France U20 ce week-end à Saint-Etienne, portera donc la tenue tricolore en Finlande du 7 au 10 août prochain. Et puis on va parler de cyclisme sur piste, puisqu'une soirée en mémoire de Jean-Claude Lecourieux est proposée vendredi soir, Léo.
Oui, Jean-Claude Lecourieux, surnommé Blanc Blanc, est décédé en décembre 2023. Il était un coureur sur route, vainqueur du Tour de Calédonie en 1984. Il a également été à deux reprises champion de France de demi-fond en cyclisme sur piste. Je vous propose d'écouter Gérard Salin, organisateur de la soirée vendredi.
Claude Lecourieux, qui a été un grand coureur sur route, avec un vainqueur du Tour de Calédonie, et puis un très beau pistard aussi, parce qu'il a été plusieurs fois champion, mais champion de France de demi-fond, deux fois, 82 et 83, si je ne me trompe pas. Il est parti l'an dernier, et je crois que, vu avec sa famille, ils sont très contents qu'il y ait une soirée en son honneur. Et voilà, on va faire une belle soirée. Donc, il y aura des courses, des tournois sprint pour les plus jeunes. Et les grands auront des courses de 200 mètres de la vitesse de Kérine. Et puis surtout, une course de demi-fond, justement, où en mémoire de Jean-Claude Lecourieux qui a brillé, il y aura deux courses de demi-fond sur deux catégories. Donc, voilà, ça va être une belle soirée et j'invite le public à venir nombreux.
La soirée en hommage à Jean-Claude Lecourieux débutera à 18h30 vendredi sur à Magenta.
Donc sur le vélodrome.
Sur le vélodrome, oui, sur le vélodrome de Magenta, un spectacle sur la piste qui
devrait
durer 2 heures.
C'est mieux pour le cyclisme sur piste.
C'est mieux qu'un hippodrome, oui, c'est sûr.
Donc, ce sera vendredi soir.